Allez-y, Michel.
Bon, merci beaucoup d'être ici pour cette réunion sur un sujet qui est d'actualité ces jours-ci, étant donné les midterm elections, et à l'occasion de la sortie du livre de Vincent Nouzille, qui est un journaliste de longue date et un enquêteur et qui connaît très bien les relations franco-américaines. Moi, je suis le représentant sur le développement régional de la French American Foundation et j'en ai été président pendant 13 ans. Et donc, je suis très heureux de pouvoir lancer, grâce à vous, ces activités en région. Joël Mabry va dire quelques mots tout de suite sur les relations franco-américaines en tant que consul des États-Unis à Bordeaux et qui vient d'arriver début septembre d'Addis Abeba, et François Courteau, qui est à la fois représentant de Safran et président de l'UMM Aquitaine, et qui a vécu aux États-Unis pendant des années en étant président de Safran États-Unis, dira un mot de l'enjeu industriel des relations franco-américaines. Voilà, on commence par Joël sur les relations franco-américaines, l'importance.
Bien. J'ai préparé quelques notes parce qu'il y a des points assez précis et avec ce qui s'est passé aux États-Unis, je ne voulais pas vous laisser avec quelques suppositions de la part d'un consul, comme quoi demain matin, on va dire, le consul a dit n'importe quoi. Donc le consul américain qui est avec vous ce soir a tout à fait l'intention de partager avec quelques minutes, donc quelques réflexions. Donc excusez-moi, hein, je vais vous lire un petit texte et puis on passera bien sûr aux autres. Donc je tiens d'abord à remercier ceux qui ont organisé cette rencontre, et tout particulièrement l'UIMM et French American Foundation. Merci aussi à Monsieur Mola de nous accueillir dans ces salons. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous ce soir. Je vais être bref, mais je voulais vous donner un aperçu donc sur les élections de mi-mandat aux États-Unis qui ont eu lieu mardi. Les chiffres, je pense que vous les avez. Mais pour résumer, la Chambre des représentants aura une majorité de républicains, 243 à 192 sièges, selon CNN. Le chiffre a peut-être changé depuis midi aujourd'hui. Alors que le Sénat aura une majorité de démocrates, 53 à 47. Et là aussi, selon CNN, ce chiffre a peut-être bougé. Je ne suis pas tout à fait sûr parce que je n'ai pas vérifié à la toute dernière minute. Et Arnold Schwarzenegger ne sera plus le gouverneur de la Californie. Hein? Alors qu'on parle de bouleversement à Washington et de la montée du Tea Party, et alors qu'on s'inquiète de la politique étrangère de l'administration Obama d'ici la fin de son mandat en 2012, je suis là pour vous dire que le gouvernement américain tient ses engagements. Concernant les relations franco-américaines, certains aiment dire que ces relations sont parfois tendues. On en est tous conscients, mais on observe aussi que c'est loin d'être une crise. On gère. Je dirais même que nous avons une très grande coopération dans beaucoup de domaines. Et M. Nouzille le dit bien dans son livre, Marianne et Uncle Sam savent qu'ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Chaque élection aux États-Unis souligne l'importance et le ressort de la démocratie américaine. Quels que soient les résultats, le pouvoir demeure avec le peuple. Et cela est un principe fondamental de notre système de gouvernement représentatif et responsable. Depuis que le président Obama a entamé son mandat, il y a 2 ans, il a suivi une politique étrangère d'engagement avec les pays et les peuples du monde qui est basée sur les intérêts et le respect mutuel. Cette politique ne changera pas. De même, l'administration continuera de travailler sur les questions liées à la croissance économique mondiale, la sécurité, le développement et le soutien aux droits universels. Malgré les différences entre nos partis politiques, les États-Unis ont une tradition de soutien bipartite sur les questions de sécurité nationale, ainsi que pour les hommes et les femmes militaires et civils qui font leur service militaire à l'étranger. Comme évidence, n'oublions pas ces responsables américains qui étaient au gouvernement et qui le sont toujours, alors que leur parti n'était ou n'est pas au pouvoir. Je pense à l'actuel ministre de la Défense américain. L'administration Obama tient toujours à travailler étroitement avec les nouveaux élus du Congrès. Si vous avez entendu le président Obama parler à la presse hier, vous l'avez entendu dire à peu près la même chose. En ce qui concerne l'économie, c'est vrai, nous traversons une période difficile. Il n'y a aucun doute. Le peuple américain fait son tout pour faire redémarrer notre économie. Pour réussir, nous comprenons qu'il faut soutenir la croissance économique globale. Cela fait partie de l'agenda, d'ailleurs, du président quand il se rendra en Asie prochainement. Finalement, les États-Unis continueront à œuvrer tous les jours afin de renforcer nos alliances, bâtir de nouveaux partenariats, nouer des liens avec les peuples aux quatre coins du monde. Les partis républicains et démocrates, ainsi que toutes les divisions du gouvernement, comprennent que les États-Unis ont la responsabilité, qui est à la fois pratique et morale, de fournir un leadership qui est efficace et mondial pour le XXIe siècle. Merci de votre attention.
Merci beaucoup, Joël, pour avoir placé clairement les relations franco-américaines dans ce sujet que Vincent va maintenant développer. Sur une période de temps plus longue. Enfin, le temps couvert, mais pas le temps pris pour exposer les choses.
Oui, tout à fait. Alors, juste pour démarrer, donc moi, je suis pas tenu à de respecter un code officiel et une ligne gouvernementale. Et donc, je suis ravi d'entendre le consul exprimer la position suite aux élections. Effectivement, on sent bien quand même malgré tout. Et donc moi, je suis libre de mes propos, donc je les assume totalement. Au sens de ces élections sont quand même une belle claque pour Obama. Donc on s'y attendait, mais c'est quand même une belle claque. Est-ce que ça va affecter sa capacité de gouverner, sa capacité de réformer les États-Unis et de mener une politique étrangère ? Probablement que ça ne va pas fondamentalement. C'est comme un grand vaisseau, un grand paquebot, cette politique américaine. Ça ne change pas de cap comme ça, de manière brutale. Donc il y a toujours une lente évolution. On peut escompter certainement que sur un certain nombre de dossiers, la guérilla quand même va être un peu sévère entre les républicains et les démocrates. Donc sur les questions de la réforme de la santé adoptée en mars, mais qui nécessite encore des approbations financières, notamment au Congrès, ça ne va pas être une partie de plaisir, je pense. Les négociations, en tout cas, vont être âpres. Sur l'ensemble des autres textes, qui sont des thèmes de politique intérieure, je pense à l'immigration, on peut penser aux dépenses, enfin au budget fédéral, on peut penser à l'engagement des forces américaines en Afghanistan et en Irak. Sur tous ces sujets, on peut escompter que le président Obama ne va pas changer de cap, contrairement peut-être aux espoirs du nouveau speaker du futur nouveau speaker de la Chambre. Mais on peut penser qu'il va être ralenti, en tout cas, dans ses mouvements, et qu'il devrait être plus modéré pour tenir compte, évidemment, des votes de son Congrès. Déjà, il avait été difficile de faire passer un texte sur les réformes de Wall Street, ce qu'on appelait la régulation financière, en gros calmer un petit peu les banques pour qu'elles fassent moins de bêtises. On sait qu'avec la majorité républicaine à la Chambre des représentants, ça va probablement être plus difficile d'aller plus loin, en tout cas en termes de régulation. Il y a un certain nombre de gens qui rentrent là, à la Chambre des représentants, qui sont plutôt des farouches partisans d'un libéralisme économique et donc d'une forme de laisser-faire Wall Street et que Wall Street reprenne un petit peu ses mauvaises habitudes. Donc je pense que sur ces questions, par exemple, de régulation financière, il va y avoir un petit coup de frein. Sur la question du réchauffement climatique, qui là aussi est un sujet majeur, mondial, et qui va donner lieu à des négociations importantes dans les mois et les années qui viennent, on peut aussi penser que déjà la position d'Obama a été compliquée avec sa majorité démocrate dans les deux chambres. Ça va l'être encore davantage, évidemment, avec une majorité républicaine à la Chambre des représentants. Alors, sur l'ensemble de la politique étrangère, de manière générale, on sait que c'est quand même le président de la Maison-Blanche qui donne sa ligne, donc sur le Proche-Orient, sur la prolifération nucléaire, sur un certain nombre de sujets. sur l'Afghanistan, sur l'Irak, je pense que les lignes vont continuer. Mais, et que le Sénat, en fait, garde souvent un mot important à dire sur la politique étrangère, plus que la Chambre des représentants. Donc. Mais en gros, il va falloir composer pour Obama, ça ne va pas être facile. Il a un petit peu la gueule de bois, quand même, après ces élections de mi-terme. Et dans le fond, il avait hérité de deux guerres les plus longues que les États-Unis aient menées à l'étranger. Il a hérité d'une crise mondiale qui n'était pas de son fait, puisqu'il est arrivé au pouvoir le 20 janvier 2009, c'est-à-dire après le crack. Et donc, il a hérité de tout ça. Donc, il a à peine eu 18 mois pour tenter de sauver les banques, l'industrie automobile, commencer à réformer le système de santé, la finance, etc., qui, dans le fond, il est soumis à la désillusion d'un certain nombre de ses électeurs qui, évidemment, sont confrontés à des problèmes économiques majeurs. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les relations franco-américaines, les relations, disons, américano-européennes ? Moi, je pense que ça ne va pas en avoir énormément, sauf sur ces grands thèmes de négociation, réchauffement climatique, régulation financière et probablement système monétaire, en gros la guerre entre l'euro et le dollar. Là, je pense que quand même, il va y avoir des sérieux coups de frein du côté du Congrès, donc ça va être assez compliqué. Après, sur le climat des relations entre Obama et, par exemple, Nicolas Sarkozy, alors je raconte dans le livre beaucoup de choses sur cette relation, qui est une relation très, 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 très paradoxale, dans le fond, parce que ces deux hommes qui sont arrivés au pouvoir un peu en outsider de leur propre camp, qui sont des avocats, tous les deux, des tribuns, dont les deux slogans étaient « Yes, we can » d'un côté, « Tout est possible » de l'autre, côté Sarkozy. Il y avait une forme de proximité possible, de rapprochement, de convergence, une volonté de réformer leur pays, d'être d'une génération nouvelle, etc. Et dans le fond, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, parce que, eh bien, il y a d'une part l'alchimie personnelle des deux personnages qui a tout de suite compté, c'est-à-dire vous avez un Obama qui est plutôt froid, si ce n'est distant avec ses pairs. Donc, il n'a pas d'amis parmi les dirigeants occidentaux. Il ne tape pas sur l'épaule de Sarkozy. Donc, il y a le style, il y a le caractère, il y a le fait qu'il est plutôt lent à prendre ses décisions. Il mûrit beaucoup ses décisions sur l'Afghanistan. Le review a été très long pour arriver à une position. Et que cette lenteur qui était considérée par Sarkozy dans la première année d'Obama, c'est-à-dire de toute l'année 2009, Sarkozy, lui, piaffait d'impatience en disant « Mais qu'est-ce que fait cet Obama ? Il fait des grands discours sur la réconciliation des civilisations, il veut restaurer l'image de l'Amérique, mais que fait-il concrètement ? Moi, j'ai déjà 10 chantiers en cours, 10 réformes lancées, etc. etc. » Donc il y avait ce reproche de Sarkozy à Obama qui était de dire dans le fond, tu es arrivé à la Maison Blanche depuis un an et tu n'as pas fait grand-chose, alors que moi, je suis déjà en pleine action. Et donc, il s'attendait un peu au pied du mur. Il y a eu un quiproquo, dans le fond, dans l'agenda. Sarkozy était déjà au pouvoir depuis un an et demi. Il avait fait ami-ami avec George W. Bush, ce que lui a un peu reproché implicitement quand même Obama. Il lui a fait un peu payer. Et puis, donc, et Obama, lui, il a sa première année. Toute l'année 2009, c'était une année de lancement. De lancement de son mandat, de ses grands thèmes, de réformes. Il voulait déjà rentrer dans l'histoire. Et ce qui s'est passé, c'est que donc les Européens, et Sarkozy en tête, réclamaient une forme de leadership américain plus fort dès 2009 sur les grands dossiers, Proche-Orient, Iran, etc. Et puis, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il a fallu du temps pour qu'Obama s'y mette, en gros. Et au moment où Obama était prêt, au moment où il a fait voter sa réforme de la santé, c'était en mars 2010, c'est à ce moment-là où il y a eu la crise grecque, la crise de l'euro, du coup. Tous les gouvernements européens ont été un peu déstabilisés. Élections régionales en France, Sarkozy est un peu affaibli. Il l'est encore plus depuis lors. Angela Merkel a perdu la chambre haute en Allemagne. Gordon Brown a été balayé en Angleterre. Donc, en gros, le leadership européen, pouf, dans un trou. Et donc, pendant un an, les Européens avaient attendu Obama. Et puis, quand Obama s'est dit « Tiens, c'est maintenant, je suis prêt à y aller », c'était il y a 6 mois, et ben, il n'y avait plus d'Européens. C'était « Quel est le numéro de téléphone de l'Europe ?» Personne ne répond. Vous savez, cette fameuse phrase. Voilà. Et là, on est entré dans une phase nouvelle, une phase nouvelle où maintenant, il pourrait être en phase,
puisqu'il y a le G20 qui arrive à Séoul dans quelques jours, il y a des grands dossiers sur la table, la réforme du système monétaire international, la réforme des matières premières, la réforme de l'ONU, enfin tout ça, tout un tas de thèmes sur lesquels d'ailleurs Sarkozy veut essayer d'avoir quelques victoires diplomatiques. Et donc on se dit, bon, après tout, 2011, Obama et Sarkozy pourraient peut-être jouer une carte commune, se rapprocher. Et en réalité, ben, ils sont tous les deux affaiblis. C'est-à-dire qu'ils sont en phase, mais c'est au pire moment, c'est-à-dire au moment où Obama prend une claque au côté interne et où Sarkozy aussi traverse évidemment une tempête sociale sans précédent. Donc les deux perdent des marges de manœuvre au niveau domestique, et les deux, c'est pas évident qu'ils réussissent à composer une vraie alliance pour progresser sur la scène internationale et avoir quelques succès, même si c'est pas ça qui fait forcément une réélection en 2012 pour les deux. Mais quelque part, on se dit, tiens, en 2011, ils pourraient jouer une carte ensemble, essayer de faire quelque chose. Alors, peut-être ce qui va se passer, c'est ce qu'on va essayer de voir en 2011. Ça, c'était pour camper le décor de Sarkozy-Obama. Mais le livre, évidemment, parle de bien autre chose. Commence en 1981 avec Mitterrand et Reagan. Alors, c'était vraiment les opposés. Reagan, c'était le cow-boy d'Hollywood, anticommuniste farouche. Mitterrand, florentin dans l'âme, allié aux communistes. Et évidemment, il y avait une grosse crainte de la part des Américains que la France ne bascule comme un pays de l'Est, quoi. Et alors, ce qui se passe, c'est, je raconte ça dans le premier chapitre, c'est une scène absolument hallucinante. C'est Mitterrand reçoit George Bush, le père, qui alors était le vice-président de Ronald Reagan. Et George Bush est un type plutôt malin, plutôt futé, et qui vient, en fond, voir Mitterrand, lui poser la question de confiance. Vous venez d'arriver au pouvoir. Vous avez les ministres communistes, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils auront du pouvoir? Et est-ce que la France reste dans le camp occidental? C'était ça la question. Et Mitterrand, c'est le jour même du premier Conseil des ministres de l'Union de la Gauche, le 24 juin 1981, à 11h30 et à 12h30, pardon, les ministres sortent par la cour d'honneur du Palais de l'Élysée. Et à 12h45, George Bush rentre par la grille du coq de l'Élysée, l'autre porte. Et pendant le déjeuner, je raconte, j'ai obtenu le verbatim des conversations, Mitterrand dit à Bush, écoutez, les communistes, j'en fais mon affaire. Avec moi, ils ont déjà commencé à descendre les marches en termes de d'audience, enfin électorale. Et ça va continuer. Je vais finir de les étrangler. Bientôt, il n'y en aura plus. D'une part, et d'autre part, les ministres communistes n'auront absolument aucun pouvoir. C'est moi le patron. La Constitution, c'est pas moi qui l'ai écrite, mais je l'assume. Donc c'est moi le patron de la politique étrangère. Les ministres communistes n'auront accès à aucune donnée secret défense. Et en cas de guerre, je retire tous les pouvoirs du ministre des Transports au ministre de la Défense. Voilà. Donc il donne des gages, dans le fond, aux Américains. Il donne des gages à George Bush. Et cette scène est absolument... Enfin, le dialogue entre ces deux hommes... qui se connaissent pas, hein, Mitterrand, voilà, et Bush. Dans le fond, Bush ressort très impressionné. Et entre les deux hommes, se nouer une relation extrêmement forte de complicité, qui est assez surprenante, parce que Bush est plutôt était un républicain, et Mitterrand, on va dire, un socialiste florentin, disons-le comme ça. Et ils vont nouer une amitié très forte, dont je raconte le détail, et qui va les mener, d'une certaine façon, lorsque Bush deviendra le président des États-Unis en 88, et que Mitterrand sera réélu en 88, leurs itinéraires sont assez proches, dans le fond. Ils vont gérer un certain nombre de grands événements de manière commune. La chute du mur de Berlin, la guerre du Golfe, la guerre de Yougoslavie, la fin de l'URSS. Et dans le fond, il y a une grande proximité entre ces deux hommes. Ils s'entendent pas sur tout, mais ils s'entendent et ils se parlent très souvent. J'ai notamment, je publie, toutes leurs conversations pendant la guerre du Golfe sont absolument stupéfiantes de complicité. Et Mitterrand est parfois plus va-t-en guerre que Bush. Et je termine sur Chirac, parce que ça, c'est un morceau d'anthologie. Donc, il se trouve que pour faire ce livre, j'ai pu accéder à des archives américaines, la Maison Blanche, de la CIA, du Pentagone, du Département d'État, et que par ailleurs, côté français, j'ai demandé des dérogations pour accéder donc à des archives de l'Élysée, qui sont conservées aux Archives nationales à Paris. Et elles sont théoriquement fermées pour 60 ans, comme toutes les archives gouvernementales françaises. Et on peut y accéder par dérogation, donc il faut montrer patte blanche, ou en tout cas, il faut avoir une tête sympathique. C'est visiblement ce que ça a suffi pour que je puisse accéder à des archives inédites de Mitterrand, ce qui permet de raconter toutes les scènes dont je viens de vous parler, et bien d'autres. Et puis, j'ai Chirac venant juste de quitter l'Élysée, je me suis dit, tiens, après tout, je vais essayer, je vais tenter ma chance de frapper à la porte et demander à accéder aux archives de Jacques Chirac. Et presque à ma grande surprise, je faisais ça un peu de manière téméraire, et presque à ma grande surprise, Chirac m'a donné son accord pour accéder à un certain nombre de ces archives. Alors, pas toutes, bien sûr, certaines sont confidentielles défense, donc ça, personne n'y aura jamais accès, sauf dans 100 ans, peut-être. Mais il se trouve que celles auxquelles j'ai eu accès sont les plus intéressantes, en tout cas pour décrire les relations entre la France et les États-Unis. C'est toutes les discussions entre Chirac et Clinton, lorsque Chirac et Clinton étaient au pouvoir ensemble, c'est-à-dire 95 à 2000 en gros. Et puis après, c'est toutes les conversations entre Chirac et Bush, fils, lorsque Bush devient le président des États-Unis, notamment au moment du 11 septembre, au moment de la guerre en Afghanistan, et surtout, évidemment, sur le différend central qui fait l'objet de plusieurs chapitres, qui est la guerre d'Irak, comment ils se sont parlé à ce moment-là. Et donc, je révèle les conversations entre Bush, fils, et Chirac. Alors, ce qui est très étonnant, un, c'est qu'ils se parlent toujours très poliment. Il n'y a pas d'engueulade du tout. On est toujours dans un registre, évidemment, diplomatique, mais ça va au-delà. Il y a parfois des gestes d'attention ou une écoute des uns et des autres qui fait que, à la fin, lorsque le nom de principe que Chirac réitère à chaque fois sur le thème « Nous ne voulons pas rentrer dans cette guerre d'Irak, dans cette guerre unilatérale, parce que nous estimons qu'il n'y a pas de danger immédiat du côté de l'Irak, tout simplement », Ils n'avaient pas des preuves sur les armes de destruction massive. Et Chirac pensait, comme beaucoup d'autres pays, d'ailleurs l'Allemagne, la Russie, que cette guerre n'était pas justifiée. De moins, il n'y avait pas de danger imminent. Et donc, ce nom était justifié. Mais toute la conversation avec George Bush, c'est « Finalement, vous allez faire votre guerre, ben faites-la, puis on se retrouvera après. » Donc, il y a une forme de fatalisme dans les conversations que l'on découvre. Et puis, il y a dès que la guerre est terminée, enfin, en gros, dès que les Américains sont à Bagdad, là, j'ai découvert des choses assez étonnantes que je révèle dans le livre, qui sont les conversations, là aussi, de Bush avec Chirac. Et Chirac lui fait des offres de service. En gros, nous n'étions pas d'accord pour rentrer dans cette guerre, mais maintenant que vous êtes à Bagdad, il faut bien qu'on fasse quelque chose ensemble, et je suis prêt à vous aider. Et je suis prêt à vous aider pour remonter l'Irak, remettre l'Irak sur ses pieds. Je suis prêt. Et il ne veut pas envoyer de soldats, ça il le répète, mais il est prêt à plein d'autres choses. Et donc, il passe d'une position qui était une opposition de principe, qui était justifiée, que l'opinion française a soutenue, bien sûr, à un extraordinaire pragmatisme, voire même des offres de service qui surprennent George W. Bush. Et George W. Bush va s'en servir pour faire pression sur Chirac, de manière à ce qu'il obtienne le maximum de la France, notamment pour aider l'Irak. Et je raconte, c'est un des chapitres du livre, comment Bush a fait payer Chirac très cher en obtenant une annulation de créances que la France avait sur l'Irak. C'était 4 milliards d'euros, en fait. C'est très cher, beaucoup d'argent. Et Bush a fait une énorme pression sur Chirac, et Chirac a pris la décision, pour faire plaisir à Bush, de faire ce geste financier qui nous coûte un petit peu d'argent, donc à vous et à moi. Donc, comme c'est une décision dont il ne s'est pas vanté, évidemment, parce qu'après s'être opposé par principe aux Américains, il était délicat de dire qu'il faisait un cadeau à George Bush juste après. Mais voilà, donc c'est ce qu'on trouve notamment dans ces archives et que j'ai fait valider, j'ai confirmé auprès d'un certain nombre d'acteurs de ce dossier particulièrement et puis de bien d'autres. Et la volonté de réconciliation de Chirac avec les Américains est très forte. Ça rejoint ce que le consul disait tout à l'heure, c'est-à-dire la France sait très bien qu'elle ne peut pas non plus s'opposer éternellement à l'Amérique. Ça n'est pas possible pour un pays de moyenne puissance d'être tout le temps dans une opposition à la grande puissance qu'est l'Amérique. On peut s'opposer sur un ou deux dossiers, mais au bout d'un certain temps, on est obligé de craquer. Et c'est ce qui se passe.
Avant de passer la parole à François, vous pourriez peut-être dire un mot de ce dossier qui a de l'importance en Aquitaine, des lasers.
Oui, puisqu'on est à Bordeaux,
Effectivement, je raconte un épisode qui est assez méconnu, en fait, de l'histoire de la coopération franco-américaine et qui se passe, en fait, au tournant de la fin des années Mitterrand, du début des années Chirac, 94, 95, 96. C'est au moment où la France, où Mitterrand décide de suspendre les essais nucléaires à Mururoa. Et donc, il décide un moratoire sur ces essais. Et Clinton le soutient dans cette initiative. Et Clinton prône un accord de non-prolifération nucléaire et d'interdiction des essais nucléaires au plan international. Et donc, les deux présidents, Mitterrand et Clinton, sont en phase sur le sujet. Donc, en gros, en France, on arrête les campagnes de tir. Et alors, tout un débat entre Balladur et Mitterrand pendant la cohabitation de 93 à 95 pour savoir... Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Balladur est pour la reprise des essais? Et Mitterrand s'y oppose fermement. Et à la fin du fin, c'est Mitterrand qui l'emporte, puisqu'il est le président, c'est lui qui a le dernier mot. Mais ce qui se passe, c'est qu'évidemment, du côté de Balladur et de Chirac, comme on sait que Mitterrand ne va pas se représenter, et on sait qu'à partir de 1995, la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec les essais nucléaires va se reposer, on les reprend. On les reprend pour une longue série, on les reprend pour une série courte, on arrête après. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? La fameuse simulation des essais, des essais nucléaires. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un accord à ce moment-là entre Mitterrand et Clinton, dont je révèle un petit peu la teneur, leur discussion, sur le fait de se dire, puisqu'on est d'accord pour arrêter les essais et les tirs, il faut qu'on se mette d'accord secrètement sur une coopération en matière de simulation. Et donc, c'est le début d'un programme secret de coopération sur le thème de la simulation des essais nucléaires, dont une des traductions est l'installation du laser mégajoule à Bordeaux. Alors, ensuite, cet accord est validé par Jacques Chirac et Alain Juppé, Premier ministre, qui avait réussi à faire installer le fameux laser dans la région de Bordeaux, ce qui était assez logique aussi. Et puis, cette coopération, en fait, entre les États-Unis et la France, c'est une coopération un peu secret défense, tout de même, apporté notamment sur la conception des lasers, et les États-Unis se sont mis dans une situation de créer un équivalent du laser mégajoule en Californie, et les Français ont créé donc ce centre à Bordeaux qui coûte très très cher. Comme ces deux projets coûtent très cher et étaient très incertains encore scientifiquement et technologiquement, il s'agissait de voir si on pouvait pas céder un peu. Et donc il y a des accords secrets qui ont été signé en 1994, renouvelé en 2004, qui perdure aujourd'hui et qui, en fait, organise une coopération scientifique et technique entre les deux projets français et américains de simulation des essais nucléaires.
Merci.
D'accord. Très peu de gens sont au courant de ce dossier.
Je passe la parole à François Courteau qui va justement développer cet aspect scientifique et industriel dans le domaine spatial notamment.
Tout à fait. Tu souhaites présenter les chiffres aquitains et oui, après plutôt.
Oui, okay. Peut-être après.
D'accord. J'ai un peu honte de parler après vous, parce que je vais bien évidemment quitter, pas entrer dans le domaine politique, mais essayer de passer un témoignage fort, un témoignage qui vient d'une expérience. Personnel, certes, depuis ma formation aux États-Unis dans les essais en vol, jusqu'à au travail dont j'ai eu la responsabilité au sein du groupe Safran avec les États-Unis. Et ce témoignage, je voudrais simplement l'orienter sur la perception des relations franco-américaines dans le domaine économique et dans le domaine industriel en particulier, qui comprend également la partie recherche et développement. Mais tout d'abord, préciser que pour l'industrie et en particulier, bien sûr, puisque mes exemples vont être des exemples qui viennent du domaine aéronautique, du domaine domaine aérospatial, du domaine de l'espace, de la défense aussi. Dans ce domaine-là, sans la coopération franco-américaine, notre industrie ASD, comme on dit, aéronautique, espace et défense, ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et le témoignage dont je parlais tout à l'heure est d'autant plus fort qu'au sein du groupe Safran, il n'y aurait pas eu le type de coopération dont Vincent vous parliez tout de suite sur le laser mégajoule dans d'autres domaines que je vais citer, mais très rapidement. D'abord, je ne serais pas là pour vous parler et j'en serais fort mari, mais également, il n'y aurait pas toute la base industrielle, de recherche, de technologie industrielle que nous avons en France et en particulier en Aquitaine. La nécessité de travailler et d'être aux États-Unis est une nécessité qui dépasse largement le cadre de l'accession à un marché. Bien sûr, à l'origine, il y a la nécessité de trouver des marchés, comme dans toutes les industries, des marchés extérieurs à la France, donc des marchés à l'exportation. Mais avec les États-Unis, très très rapidement, le terme exportation s'est traduit très tôt par le terme de partenariat. Plutôt. Et c'est ainsi que une implantation dans le domaine aéronautique de l'aviation commerciale s'est traduite dans le domaine des moteurs par une coopération forte entre un industriel américain, General Electric, et un industriel français, Snecma, qui tous les deux ont investi des sommes équivalentes pour développer un moteur qui s'appelle le CFM56, qui est un moteur qui est un des succès mondiaux de réputation qui est reconnu de tous. Ce sont les moteurs qui équipent 70% de la famille Airbus, famille A320, et la totalité des Boeing 737. Et vous voyez tout de suite, je vous parle d'Airbus et je vous parle de Boeing. Il y a là déjà cette notion de travail totalement commun. Un exemple, la personne qui représente le consortium General Electric Snecma sur le moteur C-56 au sein de Boeing est un Français de Snecma. Ça n'est pas un Américain de General Electric. C'est vous dire l'importance là également des relations et l'ouverture totale d'esprit des Américains dans ce domaine-là. Je souligne tout de suite que j'associe domaine d'ouverture d'esprit au terme pragmatisme. Les Américains sont très pragmatiques. Il y a des domaines réservés. Il y a des domaines où le protectionnisme, que je vais qualifier de naturel, existe. Des domaines de défense sur des produits d'une importance jugée capitale font l'objet d'un protectionnisme fort. Il a été d'autant plus fort les dernières années au sein avec le gouvernement Bush et la politique de George W. Bush, c'est clair. Mais ceci n'a pas empêché, durant cette période de grand protectionnisme, dans des domaines donnés, à des industriels français de remporter des marchés très importants aux États-Unis, grâce au pragmatisme américain. Je vais citer par exemple des hélicoptères d'observation et de transport de petites troupes de l'armée de terre américaine sont aujourd'hui des hélicoptères d'Eurocopter, avec des moteurs qui viennent d'Aquitaine, puisqu'ils viennent de Pau Turbomeca. Ça n'a pas été forcément facile, mais il a fallu se battre contre Bell, américain. Et c'est un Français, ce sont des sociétés européennes avec Eurocopter et françaises avec Turbomeca qui ont remporté ce marché. Je voudrais ouvrir une parenthèse sur ce protectionnisme. On a beaucoup parlé de la sélection d'un ravitailleur américain. D'un ravitailleur américain, on a dit effectivement, les Américains protègent leur marché, c'est pas normal, Airbus devrait avoir sa chance. On a oublié un peu rapidement, je crois, même dans le milieu aéronautique, que quelques années, pas longtemps, 2 ans, 3 ans avant, je regarde Pierre Bétain, ancien directeur de la SEP, que quelques années auparavant, nous, Européens, on a, excusez-moi le terme, viré Pratt & Whitney, de la motorisation de l'avion A400M, qui est en cours d'essai actuellement de mise au point. Le choix d'Airbus sur cet avion-là était un choix Pratt & Whitney, américain. Et les Européens ont, par protectionnisme, naturel aussi, et je qualifierais de normal, hein, puisque nous avions dans les plans le développement entre les Britanniques, les Français, les Allemands et les Espagnols, un moteur dans nos cartons qu'on développe actuellement, qui est le TP400. Donc il faut relativiser les choses, et je souligne bien ce mot de pragmatisme américain. Alors il y a des contraintes, je reviens au marché, il y a des contraintes, il y a des obligations de faire travailler telle ou telle entreprise aux États-Unis. Et il est sûr que l'assemblage des hélicoptères dont je parlais tout à l'heure et des moteurs sont faits aux États-Unis. Mais c'est quelque chose qui est de façon naturelle pratiqué par la quasi-totalité des pays. Donc ce pragmatisme mis en avant a permis aux industriels, et j'allais dire au centre de recherche également, de mettre en place des coopérations qui font, alors je vous ai parlé du CFM56, qui font qu'aujourd'hui nous avons avec les États-Unis la base solide de nos industries nationales. Je prends le cas de Safran Brassure, mais c'est pareil à moindre échelle, je crois, avec Thales, presque pas avec la société d'assaut aviation, mais avec EDS également. Et donc, ces coopérations nous permettent à nous de pouvoir investir de nouveau dans la recherche et la technologie, dans la recherche de nouveaux produits, dans le développement de nouveaux produits, avec également des partenariats aux États-Unis. Je parlais tout à l'heure de la SEP, qui est aujourd'hui ce n'est pas propulsion solide, dans le domaine très protégé de l'espace. Je citais Pierre Bétain, qui est ici présent. Merci Pierre d'être là. Pierre Bétain a été, avec d'autres, à l'origine d'un partenariat très fort qui a permis à la société Snecpar Propulsion Solide aujourd'hui d'être un partenaire fondamental dans la fabrication de la motorisation des moteurs de la navette spatiale. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais une partie des tuyères sont faites ici à Bordeaux, enfin ici au Hayan, grâce à une technique qui a été reconnue comme étant une technique la meilleure au monde française. Les Américains ont manifestement choisi, malgré le protectionnisme dont je parlais tout à l'heure, de faire un partenariat avec la France. Donc c'est ce témoignage que je voulais simplement donner, à partir donc d'une volonté d'expansion, d'accès à des marchés extérieurs. Les États-Unis ont été, et l'histoire le prouve, vus totalement différemment, et en particulier ici en Aquitaine, comme on dit, effectivement l'Aquitaine est tournée vers l'ouest, les États-Unis sont en face de nous, et l'industrie aéronautique d'Aquitaine est aujourd'hui basée sur cette coopération. J'ai cité tout à l'heure Dassault Aviation. Dassault Aviation, aujourd'hui, dont les avions sortent ici à Bordeaux-Mérignac, que ce soit les avions militaires comme les avions d'affaires, mais sans les États-Unis, sans l'investissement que Dassault a fait aux États-Unis pour apporter des réponses à la demande du marché qui est le plus gros marché au monde en matière d'avions d'affaires. Sans ce marché américain et la coopération avec l'usine de production, enfin d'adaptation, de customisation, comme on dit en français, excusez-moi, aux États-Unis, Dassault aujourd'hui n'aurait pas la stature qu'il a et ne pourrait pas continuer à investir dans le développement des programmes pour la défense nationale comme l'avion Rafale. Voilà, je voulais apporter ce témoignage qui aurait pu également être apporté par d'autres grands groupes aéronautiques.
On peut peut-être maintenant, avant de revenir à Vincent qui doit nous quitter d'ailleurs à 7h15, demander à Monsieur Chastenay de venir ici. Donc la présentation des relations entre l'Aquitaine et les États-Unis.
Merci beaucoup. Je vais vous donner quelques chiffres pour illustrer les relations économiques entre l'Aquitaine et les États-Unis. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les États-Unis, pour l'Aquitaine, sont un partenaire majeur. Et sur le plan commercial, c'est même le deuxième partenaire de cette région. Ce qui n'est pas évident, parce qu'on pourrait imaginer que ça serait plutôt l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, qui sont dans les premiers partenaires, mais les États-Unis sont deuxième partenaire. Alors, je vais vous donner des chiffres précis, je les ai notés quand même, parce que c'est intéressant de les avoir. En 2009, les chiffres qu'on a, les exportations de l'Aquitaine vers les États-Unis, 2 milliards d'euros, c'est considérable. Par contre, en importation de produits américains, là, désolé, monsieur le consul, on est c'est un peu moins bon, on est à 0,76 milliards d'euros, donc un peu moins d'un milliard.
Il faudrait travailler.
Oui, voilà, donc ça veut dire que vous avez du travail. Mais ça veut dire que tout de même, on a un solde commercial positif pour l'Aquitaine. Bah, vous faites le calcul, la différence, tout le monde sait faire, 1,3 milliard, ce qui est absolument remarquable. Alors, il y a un moment donné, mais alors même en 2009, les États-Unis étaient passés le premier client de l'Aquitaine, mais alors que traditionnellement ils étaient le deuxième. Mais j'ai regardé les chiffres des 6 premiers mois 2010, ils sont redevenus à leur deuxième place. Quand même, le premier partenaire de l'Aquitaine, c'est tout de même l'Espagne, ça, bon. Sauf en 2009. Et donc les ventes de l'Aquitaine aux États-Unis représentent 17% des exportations totales de la région. Donc, c'est pas rien. Donc, comme je vous ai dit, alors en 2009, c'était devant l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne. Vous voyez, les pays européens de proximité. Mais on est à nouveau revenu en deuxième position pour les États-Unis. Les secteurs, le premier secteur, c'est l'aéronautique. Je crois que tu l'as dit très clairement, qui représente plus de 60% du total des exportations de l'Aquitaine vers les États-Unis. Bon, tu as cité Dassault, mais il y a les équipementiers aussi. Turboméca, tu as cité, mais il y a Creuset, Messier-Dotti, etc. Après, loin après l'aéronautique, on trouve évidemment les équipements automobiles. C'est Ford qui construit, effectivement, qui fabrique des boîtes de vitesse et qui les réexporte aux États-Unis. Bon, sur Ford, il y a tout un dossier, on ne sait pas ce que ça va durer. Encore que là, il y a une grande réunion lundi prochain à laquelle va sans doute assister Madame Lagarde, enfin on ne sait pas encore, et puisque Ford finalement va sans doute reprendre une part du capital qu'il a vendu à un holding allemand. Un peu plus loin, on trouve le secteur du vin, heureusement quand même. Bon, c'est plutôt, ça a du mal à se maintenir, hein, c'est vrai. 7% du total des exportations, c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis après, je citerai quelques exemples, matériel médical et dentaire. C'est une des spécialités de la région. Produits chimiques et pharmaceutiques, bien sûr, où la région est très pointue. Au total, ça représente à peu près 1050 entreprises de la région qui exportent, soit régulièrement, soit de façon irrégulière, aux États-Unis. Donc, vous avez pas mal d'entreprises à aller visiter, monsieur le consul. En achat de l'Aquitaine des États-Unis, on trouve du matériel aéronautique, évidemment, des produits pharmaceutiques, des instruments d'appareil et de mesure, et puis tout un tas de choses, évidemment. Autre chiffre aussi qui peut donner une indication, c'est ce qu'on appelle, dans notre jargon à nous, les IDE, les investissements directs étrangers. Bon, le problème, c'est que les statistiques ne sont pas fiables, et ça repose sur des recherches qui sont faites, mais de façon non systématique. Mais je vous livre quand même les chiffres que j'ai. En Aquitaine, il y a 66 entreprises américaines qui ont des implantations pérennes en Aquitaine. Et à l'inverse, il n'y a qu'une vingtaine d'entreprises de l'Aquitaine qui ont des filiales aux États-Unis. Pour la petite histoire, sachez qu'il y a près de 10 000 entreprises françaises qui ont des filiales aux États-Unis. Et puis j'ai regardé aussi par curiosité au niveau des structures comme les chambres de commerce, les associations, les agences de développement, le nombre d'actions qui étaient prévues, des actions collectives, prévues en 2011 aux États-Unis. J'en ai trouvé à peu près une douzaine pour les États-Unis. C'est le premier pays. Même l'Allemagne, l'Espagne, même la Chine, c'est derrière. Voilà. Donc pour nos acteurs locaux, les États-Unis sont une grande cible. Et puis je voulais, pour terminer, mais ça déborde le cadre de la question qu'on m'avait posée, pour rejoindre ce que tu disais sur un peu le mythe des États-Unis qui sont très fermés aux entreprises, etc. Ça, c'est ma propre expérience, puisque j'ai été en poste à Détroit aux États-Unis pendant 3 ans comme conseiller commercial. Et comme j'étais à Détroit, je m'occupais du secteur automobile, et que du secteur automobile, mais pour tous les États-Unis. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire aux États-Unis, dans ce secteur. C'est que, comme tout le monde le sait, ni Peugeot ni Renault ne sont aux États-Unis. On ne trouve plus, enfin, sauf des voitures de collection, ils ont été, mais il n'y a plus une voiture. Eh bien, figurez-vous qu'il y a quand même 150 équipementiers français implantés aux États-Unis, que ce soit des équipementiers comme Valeo, Forcia, des grands équipementiers, mais aussi des toutes petites PME, même certaines PME de la région, qui ont des filiales commerciales, des filiales industrielles ou qui vendent des logiciels pointus. Donc, pour un pays que l'on dit parfois un peu fermé, je trouve ça assez, assez remarquable, pour ne pas dire exceptionnel. Parce qu'en principe, les équipementiers automobiles, ils vont s'implanter dans des pays à la suite des constructeurs français. Mmh. Eh ben non, ils y sont quand même, ceux-là. Et donc, c'était mon boulot, d'ailleurs, de tous les jours. Donc, pour vous dire... voilà, c'était juste, je voulais rejoindre ce commentaire parce que ça me paraît important de le dire et de casser parfois des clichés que l'on entend à gauche et à droite. Voilà. Merci.
Si vous voulez, je peux rajouter une petite anecdote sur Dassault et sur Dassault à Bordeaux, parce que ça m'avait fait beaucoup rire. Il se trouve qu'avant ce livre-là, j'en ai fait un autre qui portait sur la période 58 à 81, donc qui était sur la même base. Donc et j'étais tombé sur une histoire, notamment lorsque le consul américain à Bordeaux, en 1964-65, s'intéressait beaucoup, de très très près, à la fabrication des Mirage à Bordeaux. Il voulait savoir, évidemment, à quel point en étaient les travaux. Alors, il était à la fois un peu surveillé par les Français qui ne voulaient pas qu'il rentre trop dans l'usine. Donc, à chaque fois qu'il allait visiter l'usine Dassault, on lui montrait que certaines choses. Il n'avait pas le droit de rentrer dans les unités d'assemblage. Mais il avait le droit de discuter avec les pilotes qui étaient donc les pilotes de Dassault là-bas. Et donc, dans le premier volume, je raconte... Parce qu'en fait, les Américains, derrière tout ça, c'était une volonté d'espionnage de la force de frappe française. Donc, ils voulaient absolument savoir ce que mijotaient les Français, à quel degré d'avancement en était... Les travaux, à la fois sur la mise au point de la bombe atomique, mais aussi sur les vecteurs, donc les mirages qu'ils pouvaient transporter. Et comme les nouveaux mirages étaient censés, à partir de 1964, 65, 66, être les premiers vecteurs, la force aérienne stratégique, eh bien, les Américains s'intéressaient de très, 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 très près à tout ce qui se passait dans cette usine. Monsieur le consul, je ne sais pas si vous serez invité chez Dassault, je pense que oui. Je peux ajouter aussi une autre anecdote sur cette coopération GU, General Electric SNECMA, parce que dans les dossiers de la Maison Blanche que j'avais dépouillé pour le premier tome, donc qui portait sur les années 60-70, époque où est née cette coopération, vous ne pouvez pas savoir le nombre de dossiers de la Maison Blanche portant sur ce dossier en tant que tel. Car à l'époque, c'était Pompidou puis Giscard. Et en face, il y avait Nixon qui était très francophile. Et puis son successeur, Gerald Ford. Et ça a fait l'objet de centaines et de centaines de notes au président des États-Unis sur le thème « Qu'est-ce qu'on fait avec les Français sur ce moteur ?» Et ça a été une décision, en fait, totalement politique de la part de Nixon, comme et des Français, bien sûr, de nouer ce partenariat. Donc c'était une époque où, à la fois après l'époque très froide des années de Gaulle, où, comme je parlais un peu d'espionnage, même de volonté d'obstruction hein, de la part des Américains, pour empêcher les Français d'avoir la bombe atomique, par exemple, eh bien, au début des années 70, il y a eu une époque nouvelle qui s'est instaurée, avec Pompidou d'un côté et Nixon de l'autre, qui étaient prêts à faire des gestes. Et il y a eu le début d'une coopération nucléaire-militaire sur la mise au point des missiles stratégiques, sur un certain nombre de dossiers extrêmement sensibles. Coopération qui restait totalement confidentielle. Côté français, elle a été lancée par Pompidou donc, et relancée par Giscard. Elle avait un nom de code, elle s'appelait l'opération Apollon. Et cette opération Apollon a perduré pendant toutes les années 80 et se poursuit, on va dire, sous des formes très variées encore aujourd'hui. Mais le but était que la France et les États-Unis s'aident mutuellement pour la mise au point de leurs forces de frappe respectives, et surtout que les États-Unis aident dans un premier temps la France à mettre au point les missiles. Et ce dossier de General Electric SNECMA a été mis sur la table lors des sommets entre les présidents français et américains de manière très précise, et c'était un des gros dossiers qu'ils ont mis à négocier sous Pompidou, sous Giscard, et la décision était vraiment politique. Il faut qu'on s'aide mutuellement dans les domaines stratégiques.
Alors, est-ce que
monsieur le consul, oui, vous voulez ajouter un mot
Moi, ce qui me fait très plaisir en écoutant mes collègues, si je peux... Bon, on est tous des collègues, puisqu'on a fait des recherches, on a subi quelques frappes ici et là, j'imagine aussi en essayant d'avoir des documents, de saisir des documents. J'espère qu'on a été gentil de notre côté à Washington en ouvrant quelques portes, parce que je sais que certains de ces écrits, je les écris moi-même, peut-être pas ceux que vous avez recherchés, mais c'est vrai que quand on envoie un télégramme donc à la métropole, je pense à Washington, on se rend compte que cela va faire partie des archives.
Oui.
Que liront Monsieur Nouzil un jour ou vous-même si jamais vous faites une demande auprès du gouvernement américain. Donc c'est vrai qu'il faut faire très attention à ce que l'on dit, les faits, les analyses, les données. Si je vous parle aujourd'hui de 13%, je dois être absolument sûr qu'il s'agit bien de 13% et non pas 31% ou 30% ou. Parce qu'un jour, quelqu'un risque de publier ces faits. Bon, l'autre observation, simplement pour que vous le sachiez, jusqu'ici, je suis très content de voir qu'il n'y a pas trop de stéréotypes. C'est une façon d'essayer de vous provoquer un peu. Nous avons eu, oui, une élection. On a beau dire aujourd'hui et ce soir que plus ou moins tout va bien entre les États-Unis et la France dans pas mal de domaines, surtout dans des domaines très sensibles. Je n'imaginais pas qu'on allait voir déjà une telle discussion à porte ouverte. Les portes sont ouvertes. Je ne sais pas si la presse est là ce soir, mais...
C'est moi la presse.
On est d'accord, voilà. Mais donc, je pense que... Enfin, j'espère, en tant que représentant de mon pays, que nous avons depuis longtemps dépassé les stéréotypes. Je sais que ce n'est pas le cas. Malheureusement, nous avons... Je devrais peut-être évoquer le sondage qui a été fait par Harris. Est-ce que dans l'audience ce soir, il y a quelqu'un qui a lu le Harris Poll, qui est sorti il y a moins de 2 semaines, qui parle des attitudes françaises et américaines envers envers les autres. Vous l'avez vu ou pas? Bon, bonne nouvelle. Nous entendons beaucoup mieux. Et si ça ne vous gêne pas, parce que je pense que ça rentre un peu dans le thème de ce soir, alors que c'est vrai qu'on peut parler de moteur et on peut parler de droits de l'homme et le reste, mais à la base, c'est entre nous. C'est les pères de famille, c'est les mères de famille, c'est les collègues au ministère, ce sont les fonctionnaires, ce sont les hommes et les femmes d'affaires, si vous me permettez. Mais ce qu'on découvre en regardant ce sondage est que depuis 2005, les choses se sont beaucoup améliorées. Il y a eu un dégel dans nos relations.
2005, c'était le point le plus bas. Oui. Quand même.
Imaginez qu'en 2005, lors d'un même sondage qui proposait des questions autour des attitudes des Américains envers les Français et vice-versa, en 2005, 31% parce que là aussi, il faut citer des chiffres correctement. Alors, 31% des Français aimaient les États-Unis. 31%. Et seulement 35% des Américains aimaient la France. 31-35%, on divise cette salle, c'est-à-dire les deux tiers de cette salle n'aimaient pas à l'époque les États-Unis. À moins qu'il y ait un Américain ou deux, dans ce cas, on va... Mais alors que lors du dernier sondage, les chiffres ont beaucoup changé. 65% des Français aiment les États-Unis et 48% des Américains aiment la France. Il faut travailler un peu sur l'attitude des Américains, mais je pense que c'est une question. Ça montre déjà que les stéréotypes, cette histoire de vin qu'on verse dans la rue ou je ne sais pas quoi, les French fries ou autres fries, ce n'est pas ça l'essentiel de notre relation, nous le savons. Et l'essentiel de nos relations, c'est ce que nous évoquons, c'est ce qui est évoqué dans le livre. Il y a des questions très, très, très difficiles qui, à mon avis, j'essaie d'en évoquer un peu dans mon petit discours tout à l'heure, qu'il peut y avoir une élection, il peut y avoir un changement d'administration. Après Obama, on ne sait pas. Je ne vais pas dire Sarah Palin, on ne sait pas. Mais les relations entre nos deux pays sont plus fortes qu'un seul candidat. C'est qui a dit, par exemple, il n'y a pas trop longtemps, « We need strong institutions, not strong men. » On a besoin d'institutions fortes et non pas des hommes forts. Un certain Barack Obama l'a dit concernant l'Afrique. Je pense qu'à travers le monde, quand même, il y a cette idée.
Il ne l'a pas dit à l'égard de Sarkozy, donc.
Non. Non, mais je provoque un peu peut-être plus de questions. J'invite les questions, bien sûr, mais je trouve agréable de ne pas trop entendre jusqu'ici de stéréotypes. Je pense qu'on est sur la bonne voie et j'espère que les chiffres de 48% des Américains qui aiment la France, on doit faire mieux.
Cette série de sondages est intéressante parce que, soit dit en passant, c'est la French American Foundation qui était à l'origine de ces sondages.
J'aurais dû le dire.
Et y compris le dernier. Et on voit les variations considérables que tu signales entre 2001, 2005 et 2007 et 2010 maintenant. Il y a une frange d'Américains et de Français d'ailleurs qui ont considéré à un moment que la France ou les États-Unis étaient le principal ennemi. Il y avait des réactions très très puissantes contre les États-Unis ou contre la France. Mais ce qui est aussi curieux, c'est dans les strates de la population qui se manifestent. Par exemple, la France avait une image très forte auprès des Afro-Américains. Dans les populations, et c'est plutôt les cadres de Wall Street, si je puis dire, qui étaient très anti-français. On a jamais su exactement expliquer ça. Donc il y a des mouvements très forts, et justement la question que je voulais poser à Vincent, c'est dans la série d'années que vous avez suivi, est-ce que vous avez senti ces changements dans les attitudes réciproques ? Parce que vous étiez plutôt au niveau des dirigeants, alors que les sondages dont on parle, là, c'était au niveau des populations.
Mais ça suit souvent, évidemment, les grands événements internationaux. Évidemment, la crise d'Irak, le conflit sur l'Irak, la focalisation sur l'administration Bush, qui avait quand même pas mal de défauts, et sa politique très unilatéraliste ont évidemment été le principal facteur de ce désamour réciproque. Hein, anti-américanisme très fort en France et francophobie, French bashing aux États-Unis. Si on prend les dirigeants, c'est assez amusant d'ailleurs parce que sur 50 ans, en fait, depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui, on a toujours un peu une récurrence, c'est-à-dire un mouvement où lorsque les présidents français entrent en fonction, ils sont plutôt proches des Américains. Ils ont une phase plutôt d'élan, de bonnes relations, voire même de lune de miel, d'euphorie avec les Américains. Ça s'est passé... Alors, De Gaulle, c'est un cas spécial, on va dire. Lui si vous lisez mon premier tome, vous verrez que quand même, il était... les Américains lui ont donné un petit coup de main pour arriver au pouvoir, mais après, ils s'en sont mordus les doigts pendant 10 ans. Et surtout, ils se sont félicités de mai 68, et quand il a donné sa démission, enfin, quand il a quitté ses fonctions en 69, ils étaient absolument enchantés. Tout successeur autre valait mieux que De Gaulle. En revanche, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, tous débutent par des lunes de miel avec les Américains. Sommet, bonnes intentions déclarées, coopération renouvelée. Donc on a cette phase où on s'embrasse sur la bouche, quoi, en gros. Et puis, très souvent, à peu près à la moitié du mandat des présidents français, ça commence à se détériorer pour des raisons un peu, à mon avis, psychiques et d'intérêt. Enfin, d'intérêt au sens d'intérêts fondamentaux qui, à un moment donné, reprennent le dessus. C'est-à-dire qu'il y a un balancier qui repart un peu dans l'autre sens. Et souvent, à la fin des mandats des présidents, on se fout sur la gueule. Voilà. Voilà, j'ai l'expression un peu cavalière, mais c'est un peu ça. Alors, ça prend des formes un peu, parfois, plus un petit peu différentes. Il peut y avoir des crises ponctuelles. Et la crise d'Irak, sur le dossier irakien, est assez symptomatique de ça. Mais on voit bien que Chirac, lorsqu'il est élu en 95, c'est le fiancé de l'Amérique. C'est ce que je raconte dans le bouquin. Il a passé sa jeunesse aux États-Unis, il adore l'Amérique, il a eu une fiancée américaine, il a failli aller se marier avec elle. À chaque fois qu'il voit les Américains, il leur dit tout le bien qu'ils pensent des burgers, de la bouffe dégueulasse, etc. Donc il est très pro-américain. Il est décrit comme tel par tous les diplomates américains pendant toute sa carrière. Quand il arrive, il est le meilleur ami de Bill Clinton. Enfin, donc, les couples Clinton et Chirac se soutiennent, même pendant toute la crise de l'affaire de Monica Lewinsky. Je raconte que Chirac envoie des signaux très importants, très psychologiques, de soutien, en fait, à Clinton. Et il aime beaucoup Hillary, en plus. Je pense qu'il est un peu sous le charme, Hillary. Mais enfin, bon, ça, c'est un autre problème. Évidemment, ça se gâte après, évidemment, la première rencontre avec Bush se passe plutôt pas très bien, ce que je raconte. Et il le prend pour le fils de son père, ce qu'il est, évidemment, mais l'autre le prend très, très mal. Et puis évidemment, il y a une lune de miel au moment des attentats du 11 septembre et de la guerre en Afghanistan. Et puis, hop, on repart vers une crise. Et dans le fond, Sarkozy, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive? Ben, il fait la même chose, c'est-à-dire qu'il se démarque de Chirac, qui était devenu le symbole de l'anti-américanisme. Et il devient l'atlantiste fervent, etc. Atlantiste qu'il n'a jamais été, d'ailleurs, fondamentalement. Il ne parle pas l'anglais. Il n'a jamais mis les pieds aux États-Unis, comme je le disais tout à l'heure. C'est un artifice du moment. Et donc, ça veut dire aussi que, d'une certaine façon, ses positions peuvent être extrêmement élastiques. C'est un opportuniste. Donc, demain, après-demain, en fin de mandat, il peut très bien se fâcher avec les Américains, parce qu'à un moment donné, les intérêts fondamentaux de l'Europe et de la France et des États-Unis peuvent éventuellement diverger sur des questions du type, je ne sais pas quoi, euro-dollar, le réchauffement climatique ou tout autre dossier important. Donc, on a ce swing permanent avec cette phase où on s'embrasse et cette phase où on claque les portes. Mais on finit toujours par se réconcilier parce que, voilà, l'oncle Sam et Marianne sont un couple infernal.